Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Bonjour à tous, ici Pauline Léniaud et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Dans le Gratin, mon job au fond, c'est de décortiquer avec vous les clés du succès de mes invités, que ce soit via leur routine de vie, leur philosophie, leur pratique sportive ou alimentaire, mais leur lecture aussi, et de façon générale, de la manière dont ces personnalités font des choix et prennent des décisions. Mon objectif, c'est qu'en une heure environ, vous puissiez en tirer un maximum d'enseignements que vous pourrez ensuite appliquer à vos propres vies, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel. Et si le concept du podcast vous plaît, que de façon générale, il vous fait passer un bon moment, n'hésitez pas à mettre une petite note sympa ou encore mieux, un petit mot doux sur iTunes, voire même en parler autour de vous. Ça compte énormément pour moi et pour faire connaître le podcast. Et qui sait, je me dis que ça pourra peut-être aussi rendre service à quelqu'un dans votre entourage. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Harry Roselmack, que vous pourrez retrouver ou suivre sur son compte Instagram où il est assez actif via le handle Harry Roselmack, tout attaché. Et peu d'entre vous, je pense, ne savent pas qui est Harry Roselmack, mais je vais quand même me plier à l'exercice de vous résumer sa biographie, parce que j'ai découvert en faisant mon petit travail préparatoire que Harry, au fond, est un homme vraiment plein de surprises et avec une vie professionnelle et artistique beaucoup plus complète et fournie que ce qu'on peut penser au premier abord. En plus d'être rédacteur en chef et présentateur de 7 à 8 et du magazine Harry Roselmack en immersion, Harry a été, vous le savez sans doute, présentateur Joker du JT de Patrick Poivre d'Arvor sur TF1. Jusque-là, vous allez me dire, pas de surprise. Ce que vous ne savez peut-être pas en revanche, c'est qu'en plus de ses activités journalistiques, Harry a aussi une vraie passion pour la création et l'écriture, un sujet qui me parle beaucoup d'ailleurs. Il a écrit un livre, Novilu, publié sous le pseudonyme H.J. Bungo. Il a aussi écrit, produit et réalisé un film, Fracture, qui sort d'ailleurs le 9 novembre 2018 et que vous pourrez retrouver sur le site fracturelefilm.com. Avec Harry, on a parlé de sa vocation de journaliste donc, de sa passion pour l'écriture, de processus créatif, du pari fou de Fracture, de responsabilité journalistique, mais aussi et surtout de choix. Tout faire, c'est faire les choses mal, et pour Harry, dans la vie, je cite, « on ne fait les choses bien que quand on a vraiment envie de les faire ». Ce sujet des choix de vie, de savoir ce qu'on veut, de savoir ce qu'on aime, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, et j'ai trouvé l'approche de Harry sur le sujet particulièrement saine et juste. Mais je vous en dis pas plus, et laisse place à ma conversation avec Harry Roselmack. Bonjour Harry.
Bonjour Pauline.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de vous recevoir.
Je suis ravie d'être là.
Eh bien écoutez, tant mieux. Et du coup, j'ai fait pas mal de recherches sur vous. Je connaissais bien évidemment votre passé, notamment journalistique. Mais en fait, j'ai découvert que vous aviez pas mal de casquettes. Et j'ai été très impressionnée. Surtout, je me suis rendu compte que vous étiez quelqu'un de très prolifique. Vous avez écrit des livres. Vous avez aussi réalisé,
publié un,
c'est déjà pas mal. Vous avez réalisé et écrit aussi un film. Vous êtes évidemment journaliste, on le sait, à la fois vous avez été au JT TF1 bien sûr, mais aussi sur 7 et 8, etc. Donc en fait, vous êtes quand même vraiment multicasquette et je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, je voulais commencer par là et commencer par une première question qui est que moi aussi, j'aime beaucoup avoir plusieurs de projets. Donc j'ai ce podcast, j'ai aussi mon entreprise. Ouais. Et je voulais savoir en fait, qu'est-ce que ça vous apporte justement d'être multicasquette comme ça, d'être sur tous les tableaux, d'être aussi prolifique. Est-ce que c'est quelque chose qui vous nourrit? Est-ce que c'est quelque chose qui vous démange comme ça, d'être un peu touche-à-tout? Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu?
J'ai la chance de pouvoir faire les choses parce qu'elles me nourrissent, justement. Et je fais pas différentes choses pour faire différentes choses. Je suis pas multicasquette pour le plaisir de dire que je fais plein de trucs différents. Je suis juste le fil de mes envies. Et il y a une cohérence derrière tout ça. Et la cohérence, c'est l'écriture. C'est-à-dire que tous mes projets, moi, ils commencent par de l'écriture. Ils commencent par une envie ou une inspiration. Et ensuite de l'écriture. Je trouve que entre ce qui est nécessaire et ce qui est possible, on surévalue souvent ce qui est nécessaire et on sous-évalue ce qui est possible. Alors, il y a plein de choses qui sont possibles et qu'on ne fait pas parce qu'on pense que c'est compliqué, que,
ouais, bien sûr.
Parce que ce n'est pas possible. Que, voilà.
Et justement, alors, j'ai écouté plusieurs interviews de vous en préparant et j'ai notamment écouté une interview de vous où vous aviez, je trouve, des mots très justes pour parler de votre film. Pour expliquer en gros que, contrairement justement à dans votre métier de journaliste, quand vous avez posé par écrit, quand vous avez vraiment mis vos tripes en fait pour écrire ce film, c'était finalement quelque chose qui était très différent comme expérience qu'une expérience où vous allez plus parler d'actualité, où finalement vous êtes un petit peu plus effacé vous-même. Et donc en fait, ça m'intéressait beaucoup parce que moi-même en fait, je vous avoue que je rêve d'écrire un livre et que je ne l'ai jamais fait. J'ai jamais eu ce courage que vous avez eu à la fois dans le livre et dans le film.
Je sais pas si c'est du courage en fait. Il y a des gens qui me disent ouais c'est courageux,
bah,
non
ouais.
C'est pas courageux. C'était pour moi. Nécessaire, c'est-à-dire que si je l'avais pas fait, j'aurais pas été bien. Donc on n'a pas de courage à faire ce qu'on sent devoir absolument faire. C'est juste le fait de d'identifier ce qu'on a vraiment envie de faire et de se dire qu'on va pas s'empêcher ou se laisser empêcher de faire les choses. Mais ça, pour moi, c'est de la lucidité, c'est pas du courage.
Quand même, alors moi du coup, j'ai jamais eu le courage de le faire parce qu'en plus
vous avez fait plein de choses.
Oui, j'ai fait déjà. Des choses aussi, mais c'est vrai que je trouve que ce côté très personnel de l'écriture, vous me disiez justement que vous étiez passionné par l'écriture et surtout sur l'écriture, je trouve de fiction où finalement, on donne un peu son cœur quand même à l'auditoire quand on écrit un film, j'imagine, ou un livre. Et du coup, je trouvais ça assez impressionnant. Et je voulais vous demander, donc je comprends que vous avez eu ce désir, mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez maturé pendant longtemps? Est-ce que vous aviez cette idée depuis que vous étiez plus petit? Enfin, comment est-ce que ça s'est passé un petit peu dans votre tête, si je puis dire?
Non, je me suis pas projeté comme un auteur de scénario et comme un réalisateur. Je me suis retrouvé devant une espèce de fait accompli, c'est-à-dire que la maturation, si elle a eu lieu, elle a eu lieu dans mon inconscient. Et c'est vrai que si je dit que ce film est un prolongement de ce que j'ai fait dans le journalisme, c'est que pendant 5 ans, moi, j'ai fait des formats documentaires qui s'appellent En immersion sur TF1, où j'ai un peu ausculté la société française et où j'ai ausculté, où j'ai pris le temps de me plonger au terme journalistique du terme, et donc quelques semaines et pas des mois comme peuvent le faire des sociologues, mais malgré tout plusieurs semaines dans des catégories, dans des familles de gens qui, quand vous les additionnez, quand vous les mettez les uns à côté des autres, font la France d'aujourd'hui. Et je me suis rendu compte que cette notion dans l'identité de pluralité, elle est de plus en plus importante, elle est de plus en plus marquée, elle est de plus en plus revendiquée. Et ce que j'ai pu faire dans le journalisme, c'est d'aller voir chacune de ces familles. Donc, je suis allé voir des salafistes, je suis allé voir des gens qui sont conditionnés par leur parcours et ce qui se retrouvent à la rue. Je suis allé voir des paysans, je suis allé voir des prisonniers, je suis allé voir des prostituées, je suis allé voir des soldats français projetés un peu loin en Afghanistan, mais qui défendaient une idée et des valeurs françaises. Je suis allé voir tous ces gens et je me suis posé la question, l'un de mes fantasmes, entre guillemets, ça aurait été de pouvoir, journalistiquement, les rassembler et faire une même émission avec tous ces gens ensemble. Vous vous rendez compte que c'est pas possible.
Ouais, c'est compliqué.
Soit vous faites une télé-réalité et vous prenez ces gens, vous les mettez dans une pièce et vous regardez ce qui se passe. Soit vous écrivez l'histoire en fonction de ce que vous avez pu aspirer d'eux et de leur façon d'être. Et c'est cette seconde option que j'ai largement préférée. Et ça a donné Fracture, le scénario, puis le film. Après, ça a été un enchaînement qui a fait que je me suis lancé aussi dans la réalisation de ce film. J'ai dû le financer, j'ai dû le produire parce que c'était comme ça, c'est pas toujours simple de faire un premier film. Et donc c'est avec toute cette énergie-là qu'on est parti sur ce projet, mais on s'est pas posé trop la question du est-ce qu'il faut du courage ou pas. Très sincère en tout cas et assez spontané.
Et justement, vous avez pas eu un peu peur quand même, je vous pose que des questions un peu comme ça psychologiques, mais ce que je veux dire, c'est vous avez jamais réalisé de film. Alors certes, vous avez déjà réalisé des documentaires, vous connaissez tout quand même du monde de la télé, donc de l'audiovisuel, mais un film, un long métrage, c'est quand même différent, il faut manier des acteurs, etc. Ça a été dur ou pas quand vous êtes lancé dans cette nouvelle aventure? Ou au contraire excitant peut-être?
Quand vous aimez les gens et que vous connaissez les gens et que vous savez leur parler et que vous savez faire passer des idées. C'est pas dur de diriger, que ce soit des acteurs, que ce soit des techniciens, voilà, que ce soit une équipe de gens qui connaissent leur métier et qui maîtrisent ce qu'ils font. C'est pas compliqué, c'est de l'humain. Ça, je sais faire. La vision du film, je l'avais. J'aurais pas réalisé ce film si je l'avais pas écrit. Je l'ai réalisé parce que je l'ai écrit et que j'en avais, en l'écrivant, je voyais comment ça devait être, à mon point de vue, raconté.
D'accord.
Et à partir du moment où vous avez la vision et que vous avez la sensibilité qui vous permet de faire passer des idées et de faire comprendre ce que vous voulez et d'accepter que l'autre amène dans ce que vous voulez ce qu'il a apporté, c'est pas compliqué de... Enfin, ça n'a pas été compliqué pour moi, en tout cas, de réaliser ce film. Après, l'aspect plus technique, je l'ai mis entre les mains de mes collaborateurs, de mon premier assistant réalisateur, de mon directeur photo, de mon chef opérateur. Tous ces gens-là maîtrisaient la technique que moi, je ne maîtrisais pas.
Ouais, je comprends.
En tout cas, le film, il ressemble à ce que j'avais dans la tête. Et donc, ça, c'est
le principal. Et si on parle un petit peu du processus créatif, là aussi, ça m'intéresse beaucoup. Donc, vous aviez cette vision dans la tête, comme vous dites, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu, une fois de plus, que ce soit à la rigueur pour le livre ou pour le film, hein, c'est, j'imagine, assez similaire. Comment est-ce que, à un moment donné, vous travaillez, quand en plus vous avez un métier quand même en parallèle, comment est-ce que ces idées vous viennent? Est-ce que vous allez chercher de l'inspiration? Bah, justement, vous m'en parliez un petit peu dans, bah, les faits que vous avez vécu. Enfin, quel a été un peu votre processus créatif? Parce que, une fois de plus, c'est quand même quelque chose de se dire, je vais faire un film ou je vais écrire un livre. Après, quand concrètement, on doit prendre sa feuille de papier blanche et écrire, j'imagine que c'est tout à fait autre chose. Donc, est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu comment ça se passait? Même, peut-être même comment vous travaillez? Est-ce que c'était le soir, le matin? Enfin, vraiment rentrer dans le détail.
Alors, de ce que je peux analyser, parce que je ne peux pas tout décrire, il y a une part qui m'échappe un peu, que je ne saurais, peut-être parce que je n'ai pas pris le temps de vraiment de me poser, de décortiquer tout ça, mais que je saurais vous expliquer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a effectivement une phase d'absorption, une phase où on se nourrit, que ce soit en lisant. En l'occurrence, moi, ça a été en tournant ces documentaires, ça a duré quand même 5 ans, j'en ai fait 12. Et à chaque fois, ça a été une grande implication. À chaque fois, ça a été beaucoup d'empathie et beaucoup d'échanges avec les gens que j'ai rencontrés et que j'aurais sans doute jamais rencontrés dans ma vie réelle.
Ouais, bien sûr.
Parce que ce sont des gens qui ne sont pas dans mon spectre quotidien. Donc, cette phase d'absorption. Et puis ensuite, il y a cette partie que je saurais décrire où il se passe des trucs, où ça mature un peu dans l'inconscient et où, à un moment, ça s'exprime. Moi, j'ai pas de discipline d'écriture, c'est-à-dire que j'écris de façon très spontanée. J'ai même pas d'horaire, j'ai pas d'heure. Je peux écrire la nuit, je peux écrire. Enfin, en général, quand je suis sur un projet d'écriture, c'est complètement désordonné. C'est-à-dire que j'écris quand je peux, et c'est quelque chose de presque physique. C'est-à-dire que j'ai les idées dans la tête, je peux pas dormir, donc je me réveille, je vais sur mon ordi, j'écris. Un écrivain qui construit une œuvre, lui, ce que je lis souvent, en tout cas, ils ont des disciplines d'écriture, ils se réveillent, ils écrivent souvent le matin d'ailleurs, de 5h ou de 6h ou de 7h jusqu'à midi, ils écrivent et puis après ils font ce qu'ils ont à faire. Moi, je ne le fais pas comme ça parce que pour l'instant, ça n'est pas... ça n'est pas ma vie. Ce sont des parties de ma vie. Quand j'ai écrit mon roman, ça a été une partie de ma vie. Quand j'ai écrit mon scénario, ça a été une partie de ma vie. Quand j'ai réalisé ce film, je l'ai produit, etc. C'est une partie de ma vie parce que le film n'est pas sorti. Il sort le 9 novembre. Et ça fait 3 ans et demi que je travaille dessus. Donc, c'est une partie de ma vie qui dure quand même. 3 ans et demi, c'est quand même... Bon, c'est pas...
En tout cas, je vais vous dire que la bande-annonce donne vraiment envie. Enfin, du coup, j'ai pas vu le film, évidemment, mais j'ai vu la bande-annonce et elle est assez impressionnante.
Ouais, on en a plusieurs là, qu'on met en ligne. On a commencé à en mettre en ligne quelques-unes. Ouais.
Et une dernière question à ce sujet qui m'intéresse toujours, c'est... donc, j'ai compris que vous n'aviez pas de discipline, mais malgré tout, est-ce que vous êtes quelqu'un de structuré dans l'approche au sens où vous aviez quand même, je sais pas, d'abord travaillé des chapitres, vous aviez cette vision, comme vous disiez, donc vous saviez exactement là où vous vouliez aller et ensuite vous avez, entre guillemets, rempli des cases. Comment ça s'est passé vraiment au niveau de l'écriture et de la structuration, on va dire, des différentes idées?
La structuration, elle arrive dans un deuxième temps. C'est-à-dire que le premier jet du scénario de Fracture, je l'ai écrit en un temps très court. Ça se compte même pas en semaines.
D'accord.
Je l'ai écrit dans un temps très court, le premier jet, qui ressemblait déjà beaucoup à la version finale, à ce que ça donnera, à ce que ça donne aujourd'hui, à ce que les gens verront à partir du 9 novembre. Après, J'en ai écrit 15 versions. Donc, je l'ai partagé, j'ai eu des retours. Et c'est très marrant parce que parfois, vous avez des retours que vous considérez comme pas très pertinents.
Ouais.
Et ça, il se passe des jours, quelques semaines, et vous vous dites, mais finalement, il ou elle avait raison. Et hop, vous partez dans cette direction. Mmh. Donc après, c'est un... Toute cette phase vraiment de structuration, elle est, pour moi, elle est postérieure au premier jet et à ce que j'ai vraiment envie d'exprimer. Donc, je suis pas parti avec une structure très,
hyper précise.
Quand j'ai écrit mon roman, c'était marrant parce que, comme quelque part en tant qu'auteur, j'étais l'un des personnages de mon histoire. En tout cas, à chaque fois, ça vous dépasse. En tout cas, moi, à chaque fois, ça m'a dépassé. À chaque fois, ce que j'ai écrit m'a dépassé, et à un moment, je me suis retrouvé presque prisonnier de mes personnages. C'est-à-dire qu'à un moment, j'avais plus tellement le choix de ce que j'allais écrire. Mm. Et c'est eux, par rapport aux caractéristiques que je leur ai données, par rapport à ce que je leur imposais comme, comme obstacle, comme direction, et bien à un moment, plus ça allait dans l'écriture, et moi, j'avais le choix de leur imposer des réactions, de leur imposer des choses. Si je voulais respecter une forme de cohérence, j'étais obligé d'aller dans la direction que eux me dictaient. Donc au départ, c'est moi qui leur imposais des choses, et à la fin, c'est eux qui m'ont imposé des choses. Et ça, c'est génial. et ça, ça m'est arrivé aussi quelque part un peu dans le film, même si j'ai une intention de départ, j'ai envie de démontrer quelque chose, en tout cas de montrer
un projet,
quelque chose. Au bout d'un moment, ce sont vos personnages qui vous dictent finalement ce qu'ils doivent dire. Et vous n'êtes là que comme une courroie de transmission et vous écrivez ce qui... c'est peut-être un peu de la schizophrénie. D'ailleurs,
non, pas du tout, mais c'est drôle parce que beaucoup d'auteurs disent ce genre de choses qui sont presque pris en fait par les personnages et qu'en fait, ils deviennent eux-mêmes les personnages.
Exactement.
Donc, ça me fait plaisir que vous disiez ça parce que ça confirme un petit peu les dires de ces personnes. Et j'ai justement parlé un petit peu du livre. Une autre question que j'avais, c'était que j'ai vu donc, que vous aviez utilisé un nom d'emprunt, un pseudonyme, et je suis une assez grande fan de Romain Gary, donc je savais pas si... Enfin, j'ai cru comprendre que vous aimiez bien aussi, du coup, je me suis dit que c'était un peu une petite référence. C'était important pour vous justement de décorréler dans le geste d'écriture votre nom qui est quand même très connu du nom d'un auteur pour vraiment donner une chance particulière on va dire au livre.
Oui, c'est anti-commercial, je sais.
Ouais. Mais c'est tout à votre honneur, je trouve.
Mais j'avais vraiment envie que les gens achètent le roman pour les bonnes raisons, pour le quatrième de couverture, parce que ça les intriguait, parce que voilà, et pas parce que c'est vu à la télé ne m'intéressait pas tellement en fait et ce nom qui est un nom d'artiste finalement je l'ai conservé parce que j'ai fait un film mais j'ai aussi produit et écrit une bande originale. On a décidé plutôt que d'acheter des droits musicaux parce que le film se passe sur un bateau où il y a une fête et on avait besoin de musique. Donc plutôt d'acheter les droits musicaux
qui peuvent coûter cher,
on s'est dit autant prendre cet argent parce qu'une BO ça coûte cher aussi mais amusons-nous à faire notre musique, à faire voilà. Et donc j'ai écrit pas mal des paroles de
génial
des chansons. Et là aussi voilà, c'est des choses qui me sont venues avec la musique des compositeurs avec une part de choses que je saurais pas vraiment expliquer, c'est comme ça. Mais j'ai utilisé ce même nom Haji Bungo pour signer les chansons.
Et il a une signification, Haji Bungo ? Je n'ai pas trouvé ça.
Oui, Bungo, c'est le nom de jeune fille de ma maman.
D'accord.
Et puis Haji, ce sont les initiales de mes prénoms.
D'accord, ok, très bien. Parfait, super. Je ne vais pas parler que quand même, évidemment, de votre carrière littéraire, même si, comme je vous disais, ça m'intéressait beaucoup. Je vais évidemment aussi évoquer le reste, la carrière journalistique notamment. Et du coup, donc si on passe un petit peu du coq à l'âne, je voulais commencer en fait par vous demander un petit peu de me parler de votre enfance, de où est-ce que vous étiez né, de comment était le petit Harry Roselmack quand il était à l'école, par exemple. Est-ce qu'il était plutôt turbulent? Est-ce qu'il était plutôt bon élève? Est-ce qu'il était déjà fan de littérature? Comment était le petit Harry?
Le petit Harry était un garçon plutôt sage, travailleur, mais pas premier de la classe. Je me rappelle que dans toutes les classes dans lesquelles je suis allé, j'étais pas au premier rang, j'étais pas tout au fond, j'étais au milieu. j'étais dans la moyenne au niveau de mon positionnement dans la classe. J'étais plutôt bon élève, mais je pense que si j'y avais vu un intérêt, si je m'en étais donné la peine, j'aurais peut-être pu faire des études plus brillantes que celles que j'ai faites. Mais je crois que j'ai su assez tôt, peut-être vers 13, 14 ans, que je voulais être journaliste. Alors au départ, c'est drôle parce que je voulais être critique de film.
Ah, c'est marrant.
Alors comme qu'au quoi. Final, voilà, comme quoi, il y a
vous êtes passé de l'autre
choses,
côté de la barrière.
Il y a des boucles qui se font. Voilà, j'étais un garçon équilibré. J'ai eu la chance d'avoir des parents formidables qui nous ont bien élevés. J'ai grandi avec mon frère. J'ai une sœur aînée, mais qui, elle, a grandi à la Martinique et qui nous a rejoints à l'adolescence. C'est la seule chose peut-être un petit peu atypique. Ce que je dois certainement à ma sœur, c'est ce goût pour l'écriture, parce que ma façon de communiquer avec elle, c'était par des lettres.
Ah oui.
Donc je lui envoyais des lettres, elle m'envoyait des lettres. Et je pense que c'est à partir de ça que j'ai développé le goût de l'écriture, voilà, pour me rapprocher de ma sœur qui était pas avec nous au quotidien. Et puis pour le reste, ouais, je me suis construit avec les études, mais aussi pas mal avec le judo, qui est un sport que j'ai pratiqué
au
niveau national quand j'étais cadet junior. Et on avait surtout une bonne bande de copains qui est d'ailleurs restée très liée, très soudée, que je vois encore aujourd'hui, même si on est un peu éloigné par la distance. Il y en a un qui est à l'île Maurice, d'autres qui sont à Tours, puis évidemment la région parisienne. Mais on continue à se voir dès qu'on le peut et on a formé un vrai groupe.
Top. Et vous me disiez donc assez tôt, vous avez su que vous vouliez être journaliste, donc ouais. Un peu à cause de l'écriture. Mais est-ce qu'il y a eu un moment, est-ce qu'il y a eu un événement, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui vous a vraiment donné cette envie que, si vous vous post-rationalisez un petit peu, entre guillemets, si je puis dire, qu'est-ce qui, voilà, à 12-13 ans, c'est rare quand même qu'on sache ce qu'on veut faire dans la vie. Enfin, moi, à 12-13 ans, j'étais complètement paumée. Hein. Je ne savais pas ce que je voulais faire.
Non, je crois qu'effectivement, ça répondait à ma curiosité naturelle, au fait que j'aimais bien transmettre. Voilà, passer des messages. À l'époque, je crois que je me suis dit que ça me permettrait de voir des films gratos.
D'accord, ça c'était plus sur le côté critique de films.
Donc tout ça réuni a fait que je me suis dit et puis alors il y a quelque chose de très important. Si j'ai fait de la musique, c'est parce que on me l'a dit, hein, j'en sais rien, on m'a dit que j'avais une oreille. Pour moi la vue est importante, mais l'oreille aussi. Et j'ai toujours beaucoup aimé la radio. J'ai été plus fasciné par des journalistes radio que mes parents écoutaient et donc que j'écoutais que par des journalistes télé. Et donc la radio a joué un rôle important aussi dans ma vocation de journaliste.
Justement, vous avez eu un peu des mentors auditifs comme ça, des personnes qui vous ont inspiré, qui vous ont donné l'envie de devenir journaliste quand vous étiez plus petit?
Moi, j'en ai eu plein parce que moi j'ai eu un parcours radiophonique assez riche. Moi, mes parents écoutaient RTL.
Ouais.
Donc j'ai grandi, j'étais ado, on écoutait Bourdin à 13h, ouais. On écoutait Jacques Esnou que j'aimais beaucoup à l'antenne le matin à 7h. On écoutait Hervé Béraud à 18h. Donc j'ai commencé par écouter RTL. J'ai eu mon époque Europe 1 où j'écoutais des gens comme André Dumas à midi, ouais. Comment s'appelle-t-il, Bernard de la Villardière qui ouais. faisait les matinales, qui était très bon. Jean-Luc Delarue qui a vraiment révolutionné la matinale. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'il faisait à l'époque le matin sur Europe 1. Après, j'ai eu mon époque un peu France Inter, que j'écoutais notamment le matin avec le Corse. Comment s'appelle-t-il? J'oublie
Yves Calvi?
Non, pas Yves Calvi.
Les Corses aussi, c'était, non, je crois.
C'était la génération d'antenne un peu avant. Son nom ne va pas me revenir. Mais j'ai écouté un petit peu cette matinale-là. Et puis France Info. Quand j'ai commencé mes études de journalisme, j'ai beaucoup écouté France Info. Qui est d'ailleurs la première, enfin, qui est la deuxième radio dans laquelle j'ai travaillé. Et progressivement, j'ai écouté différents types de reportages et de présentations, et tout ça m'a nourri.
Ouais, complètement. Ouais. Et donc, assez naturellement, vous orientez vers des études de journaliste quand vous quittez le lycée.
Ouais.
Et qu'est-ce que ça a été, les études de journaliste? Je veux dire, est-ce que vous avez, est-ce que tout de suite vous êtes dit je vais m'orienter radio, je vais m'orienter télé? Est-ce que quelle a été un peu votre approche quand vous êtes arrivé, et quelles sont un peu les grandes découvertes que vous avez faites quand vous êtes arrivé en école de journalisme?
La découverte des gens, parce que pour la première fois, et c'est ce qui me plaît dans ce métier, hein. C'est pas simplement d'écouter des gens et de me dire je suis curieux, j'aime écrire, c'est surtout les gens. Moi, si je fais ce métier, c'est parce que les gens m'intéressent, comme vous, ils vous intéressent. J'aime savoir ce qu'ils pensent, pourquoi ils le pensent, ce qu'ils vivent et comment ils vivent ce qu'ils vivent. Tout ça m'intéresse. Et donc, c'est vraiment ce que j'ai découvert à l'école du journalisme, c'est qu'enfin, à l'école, eh ben, on sortait rencontrer des gens.
Ouais.
On s'intéressait aux gens, on leur posait des questions.
On n'était pas derrière un bureau comme ça.
Et qu'on n'était pas là simplement à apprendre. Parce que quand vous êtes journaliste, normalement, c'est du partage. Quand vous faites une bonne interview, c'est quand vous avez le sentiment de partager quelque chose avec quelqu'un. Ce n'est pas simplement aller chercher des infos. C'est aussi apporter, vous, quelque chose. Par votre écoute, par la façon dont vous allez rebondir, par ce que vous allez apporter à l'échange. À l'échange, donc c'est un échange.
Oui.
et ça, c'est hyper important. Et je pense que c'est la révélation majeure, ou en tout cas la confirmation majeure, parce que c'est un peu ce que j'avais en tête, mais c'est la confirmation majeure que j'ai eue à l'école.
Et donc, est-ce que naturellement, même si vous aimiez l'écriture, vous êtes quand même dit, comme vous aviez aussi cette passion de la culture un peu radiophonique, que vous vouliez vous orienter plutôt vers la radio et la télé, parce qu'on va en parler juste après, mais très tôt, en fait, vous avez commencé tout de suite à travailler pour des chaînes de radio. Donc, est-ce que c'était quelque chose que vous aviez décidé? C'est arrivé un peu par hasard? Comment ça s'est passé?
Non, la radio, je l'ai vraiment décidé. La télé, non. Je m'étais pas projeté en télé. En revanche, la radio m'intéressait tout simplement parce que mon papa faisait tous les dimanches matins une émission de radio antillaise sur une radio qui s'appelait Radio Béton à Tours. Et dans cette émission là, moi, dès le lycée, je faisais les infos.
C'est génial.
En fait, j'allais acheter un journal qui s'appelle France Antilles et je faisais les infos des départements d'outre-mer, un petit flash très amateur, à la mi-journée de cette émission de radio à laquelle mon père participait. Donc j'ai eu vraiment aussi cette accroche avec la radio très familiale et personnelle qui a fait que j'ai développé une sensibilité un peu particulière par rapport à ce média.
D'accord. Et donc, justement, transition. Donc, vous commencez par travailler pour des radios et notamment donc une radio aussi qui s'adresse aux populations d'outre-mer. Vous êtes resté là-bas, je crois, un certain nombre d'années quand même.
Je suis resté de 94 à 2000.
Ouais, c'est ça. Donc, quand même assez longtemps.
Presque 6 ans.
Ouais, presque 6 ans. Et ensuite, après ça, donc vous enchaînez sur des radios plus importantes, nationales. Donc, je crois avoir vu.
Alors, d'abord des locales. D'abord les locales de France Bleu.
Ah oui, d'accord.
Et
ensuite, France Info. C'est ça. Et ça, en fait, une fois de plus, c'était une, j'imagine, naturellement, aussi une volonté de votre part d'aller vers du national, de commencer à aller de plus en plus dans l'info. Est-ce que le fait, finalement, d'aller sur du national a réellement changé votre métier par rapport aux premières radios que vous aviez? Ou est-ce que, finalement, bon, l'audience est plus importante, la notoriété est plus importante, mais au final, dans le métier vraiment de journaliste, ça ne change pas grand-chose?
Non, ça ne change pas. Ça ne change pas, parce que traiter l'information, c'est traiter l'information avec des méthodes qui m'ont été apprises, moi, à l'école de journalisme. Et ça, vous le faites que vous travaillez dans un fanzine qui va toucher quelques centaines ou milliers de lecteurs, ou sur TF1, où vous allez potentiellement parler à des millions de personnes. Donc non, le métier reste le même. Les moyens mis à disposition changent, donc ça va changer le cadre dans lequel vous allez l'exercer.
Ouais, bien sûr.
Ça va changer aussi quand même un petit peu la responsabilité que vous avez, parce que quand vous êtes approximatif et que vous faites une erreur dans un journal qui est lu par 200 personnes, c'est grave, mais c'est moins grave que quand vous faites une erreur sur un média qui est regardé par des millions de personnes. Ça explique aussi peut-être parfois le manque d'audace qu'on peut reprocher à des grands médias nationaux, mais il faut savoir qu'on a une responsabilité qui est une responsabilité forte.
Ouais, bien sûr.
Et que on ne peut pas se permettre d'être dans l'approximation, même si la maîtrise de l'information n'existe pas. On est des êtres humains et ça arrive de se tromper, arrive d'être démenti par cette matière vivante qu'est l'actualité, parce que l'actualité, elle vit, et parfois, elle fait des contre-pieds aussi.
Oui, et puis tout n'est pas tout noir ou tout blanc aussi, j'imagine, donc c'est pas si simple.
Exactement. Donc voilà, il faut faire avec ce matériau-là.
C'est rigolo, j'ai eu la chance d'avoir aussi Emmanuel Chin sur le podcast, qui me parlait justement de cette notion de responsabilité, et je lui ai demandé, du coup je vais vous poser la même question, est-ce qu'il y a eu une anecdote dont vous vous seriez rappelé, où vous avez senti justement très fortement cette notion de responsabilité? Ce que j'entends par là, c'est où vous êtes dit, alors peut-être que vous avez fait une erreur, ou vous êtes posé la question de faire un sujet, justement parce que vous disiez, j'ai cette responsabilité devant des millions de téléspectateurs, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Lui me parlait notamment donc, d'une jeune boîte qui était dans, je crois, dans la restauration, et en fait, bon, bah, il montrait que la nourriture était faite sous vide, et du coup, c'est vrai que ça avait fait une mauvaise réputation à l'entreprise, alors que par ailleurs, c'était quand même des bons produits. Il se trouve qu'ils étaient faits sous vide, mais c'était pas très grave. Et donc, il regrettait un petit peu, justement, le fait que ça a été mal perçu. Bon, c'était pas forcément de sa faute. Mais voilà, est-ce que vous avez eu une anecdote, c'est peut-être pas le mot, mais un cas où vous avez eu, on va dire, un cas de conscience au niveau de la responsabilité dans votre travail?
Ouais, je vais peut-être citer le... Je crois que j'en ai très rarement parlé, peut-être même jamais, mais c'est le seul épisode où j'ai eu un vrai désaccord avec le reste de ma... Enfin, des gens qui décident de ce que l'on programme, de ce que l'on diffuse dans 7 à 8. C'était lors de... Pas la mort, mais lors de l'agonie, lors de la maladie de Nelson Mandela. Il y a un moment où c'était vers le mois de mai-juin, il y a eu une espèce d'emballement où tous les grands médias, Le Monde, les médias de presse écrite, et les radios, parce que Nelson Mandela était très malade et qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles il n'en avait que pour quelques jours, tout le monde a commencé à sortir des nécros, a commencé à parler un peu de Nelson Mandela, un peu au passé, de rappeler sa vie, son œuvre, etc. Et nous, notre difficulté, qui est une difficulté réelle en tant que magazine hebdomadaire, c'est que on est programmé une fois par semaine le dimanche. C'est-à-dire que si on programme un sujet le dimanche et qu'on décide de ne pas le passer et que l'événement arrive à lundi, nous, on arrive le dimanche d'après... Après toute une vague d'informations, notre sujet a le risque d'être updaté, d'être un peu carbonisé, comme on dit dans le métier, et de plus avoir beaucoup d'intérêt pour les téléspectateurs. Donc, c'est vrai qu'on doit se poser des questions de programmation. Est-ce qu'on anticipe ou est-ce qu'on n'anticipe pas? On avait un sujet qui était prêt, qui racontait la vie et l'œuvre de Nelson Mandela, qui était une forme de nécro. Voilà, on parlait de son œuvre. Et je considère que sur ces sujets-là, sur les sujets de mort, etc., il y a des choses qu'on ne peut pas faire, je trouve, de façon neutre. Et notamment, moi, je ne me voyais pas diffuser un sujet de Nelson Mandela au passé, alors que Nelson Mandela était encore en vie. Et donc, je me suis opposé à la diffusion de ce sujet en réunion de programmation. Ça a été très chaud. Et c'est la seule fois. Hein. Ça fait 12 ans que je travaille sur ce magazine et c'est la seule fois où il y a vraiment eu un vrai débat contradictoire sur une question de programmation de sujet. Moi, j'ai dit que je ne lancerais pas ce sujet. Je ne lancerais pas ce sujet. Et c'est pas parce que c'est Nelson Mandela, ça aurait été une autre personnalité, j'aurais fait la même chose. Eh ben, il s'avère que Nelson Mandela s'est remis de cet épisode et qu'il est effectivement mort, mais il est mort au moins 6 mois après.
Ouais.
Et donc, ce sujet, on l'a diffusé au moment où Nelson Mandela est mort et ça avait tout son sens. Et ce sujet avait toute sa pertinence à ce moment-là. Donc voilà, c'est peut-être le seul... c'est le souvenir qui me revient en matière de responsabilité. Je pense que il faut parfois faire des choix qui peuvent nous coûter parce qu'effectivement, il aurait pu effectivement trépasser le lundi suivant le dimanche où on n'a finalement pas diffusé ce sujet. Et notre sujet, peut-être qu'on l'aurait mis à la poubelle. Peut-être,
ouais, bien sûr.
Mais parfois, il faut savoir s'écouter aussi et se faire confiance.
Complètement. Vous parliez, c'était assez intéressant, je trouve, justement, du fait que 7 à 8, c'est une émission très particulière, hebdomadaire. Et c'est vrai que cette question du temps long, du fait que finalement, on est presque plus dans de l'analyse, je trouve ça hyper intéressant. Bah, moi, du coup, j'ai un podcast, donc j'aime bien le temps long. J'aime bien aussi, pas forcément des choses qui sont liées à l'actualité. Mais du coup, en fait, dans la programmation des sujets, dans votre réflexion, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de la façon dont vous le pensez? C'est-à-dire, alors avec les équipes, hein, bien sûr, mais il faut rebondir sur de l'actualité. Est-ce qu'au contraire, le fait que vous soyez une émission hebdomadaire permet peut-être de rentrer plus dans le détail et plus de traiter les sujets en fond ou même à froid parfois? Est-ce que justement c'est une vision que vous avez pour 7 à 8 d'être quand même plus dans de l'investigation, dans du fond, que du rebond d'actu pur, on va dire, et peut-être d'ailleurs la différenciation de l'émission?
Alors notre souci, il est plus celui de l'incarnation que celui de l'investigation. Je dirais pas que 7 à 8 est un magazine d'investigation, même si on en fait parfois et même si on a parfois des sujets enquête.
Ouais.
Mais l'ADN de 7 à 8, c'est l'incarnation. C'est-à-dire qu'on va faire des sujets qui vont incarner une actualité, qui vont la raconter, mais avec des gens qui nous auront permis de passer du temps avec eux et qu'on va suivre. On va pas faire des dossiers, on va pas aller multiplier les interviews posées. On va être avec les gens dans leur vie et la vie de ces gens va nous incarner une thématique. Alors, il faut qu'elle soit dans l'air du temps, le plus souvent, pas forcément dans l'actualité brûlante, mais ce qui est bien dans ce magazine, c'est qu'on a des sujets très divers et qu'on a différentes temporalités de traitement de l'information. On a des sujets qui sont dans l'actualité chaude, dans le hot news, comme on dit, en bon français.
Jargon.
Donc, on a de l'actualité chaude qu'on va traiter avec toujours cet impératif d'incarnation, mais qu'on va traiter dans le même rythme que les journaux télévisés. Et puis, on a des sujets qui sont plus dans l'air du temps, où on va chercher parfois des nouvelles tendances, où on va aller incarner des tendances lourdes. Et on a aussi ces sujets qui sont des sujets qui ouvrent sur des traditions lointaines, sur des populations aujourd'hui marginalisées, où on voit de marginalisation, voire de disparition pour certaines, qui sont ces sujets évasion que notre public aime beaucoup. Et on a enfin la case portrait, où là, on essaye pour le coup d'être dans de l'exclusivité. L'idée du portrait, c'est d'être avant les autres et de faire partager des expériences de gens connus ou inconnus, mais qu'elles n'ont pas encore partagé au public.
Et alors, justement, dans tout ce cheminement et dans toutes ces données assez variées, est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de votre rôle à vous et de concrètement, qu'est-ce que ça signifie présenter et être rédacteur en chef, si je me trompe pas, de 7 à 8, parce qu'en fait, c'est vrai qu'en fait, en tant que téléspectateur, on vous voit à la télé, donc on a l'impression que vous faites ça, mais en fait, je pense qu'on se rend pas vraiment compte aussi de tout ce qu'il y a derrière, et j'imagine que finalement, le temps de passage à la télé, c'est pas forcément ce qui est la partie la plus importante de votre job au final, même si c'est ce qu'on retient. Est-ce que vous pourriez me raconter un petit peu, alors je dirais pas heure par heure, mais un peu qu'est-ce que c'est une journée type de Harry Roselmack? Est-ce qu'elles sont types déjà, ou est-ce qu'en fait, c'est hyper varié à chaque fois? Et juste qu'est-ce qui se passe, quoi, dans une journée.
Ce que vous venez de décrire là, c'est très vrai pour le JT. C'est-à-dire que pour le JT, il y a des gens qui pensaient que le journaliste qui présente le 20h, il arrive à 19h15, 19h30, il va se maquiller et puis il prend connaissance de textes qu'on lui aura écrits. Non.
C'est rien.
Le journaliste qui présente le JT, il le fabrique aussi avec son rédacteur en chef. Et il est là pour un 20h dès le matin, 8h30, 9h. Et il a commencé à bosser avant parce qu'il a déjà pris connaissance de ce qui est écrit dans les journaux, de ce que les matinales en radio disent le matin. Donc ce sont de grandes journées qui se terminent par la présentation du journal le soir. Pour 7 à 8, c'est un peu pareil, mais je mentirais en disant que c'est une implication quotidienne. Moi, je ne suis pas impliqué quotidiennement dans le choix et la fabrication des sujets. Il y a une équipe de rédacteurs en chef et de rédacteurs en chef adjoints à la rédaction d'Elephant et compagnie qui est très compétente et qui fait extrêmement bien ce travail d'encadrement que moi je n'ai pas besoin de faire. Ce que je fais moi dans 7 à 8, c'est le jeudi prendre connaissance des sujets que je vais lancer le vendredi. Donc, je regarde les sujets, je fais mes retours, si retour il y a besoin de faire, j'écris mes textes, mes plateaux que j'enregistre le vendredi.
D'accord.
Et voilà, mon rôle opérationnel sur 7 à 8, c'est ce rôle-là. C'est un rôle de validation finale et d'habillage de l'émission et de lancement des sujets. Il y a un autre volet qui est un volet important, c'est le volet communication et c'est le volet incarnation du magazine devant, face à l'extérieur. C'est-à-dire que quand, ça arrive rarement, mais quand il y a des critiques ou quand il y a des choses à défendre ou quand il y a des choses à mettre en avant... c'est moi qui le fais.
Ouais. Et donc concrètement, si je reviens, je suis désolée sur ma question, est-ce que du coup, maintenant que vous êtes plus au JT et que vous êtes sur 7 à 8, votre journée en fait est une journée qui est consacrée donc à 7 à 8, mais aussi donc c'est pour ça aussi que vous avez la possibilité de faire toutes ces autres activités. concrètement, vous essayez justement d'avoir un peu des journées type avec, je sais pas, un lever tôt le matin, etc. Ou au contraire, vous aimez bien votre liberté, vous aimez bien le fait de pouvoir un peu papillonner. Quel est un peu votre état d'esprit de ce point de vue-là ? La raison pour laquelle je vous pose cette question, c'est que j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui écoutent le podcast et notamment qui aiment bien se dire qu'il faut structurer, qu'il faut créer une discipline autour de leur journée, même dans des métiers créatifs, justement, parfois, en fait, on est obligé de le faire parce que sinon, on part dans tous les sens ou on ne fait rien. Donc, en fait, justement, je voulais vous poser la question.
Le cadre, il est fixé par mes enfants. Déjà qu'il faut amener à l'école le matin.
Très bien.
Donc on ne papillonne pas le matin, on se lève relativement tôt.
C'est bien de s'occuper de ses enfants le matin.
On prépare les enfants et on les amène à l'école. Donc déjà ça, c'est un premier élément. Et puis, c'est vrai qu'il n'y a, a pas un chemin de fer aussi rigide que quand vous avez des horaires de bureau que vous devez absolument respecter. Mais il y a une grande difficulté, en tout cas me concernant, et c'est une difficulté qui dure depuis déjà maintenant quelques années, c'est de tout faire rentrer dans la journée. Mm. Parce que dans la journée, j'ai des rendez-vous à honorer, j'ai beaucoup de mails, j'ai des instructions à donner dans tous les sens, j'ai des gens aussi à lire, j'ai des... Voilà. Mm-hmm. Donc ma problématique, c'est comment je fais tout rentrer dans la journée. Et c'est ça qui nécessite une forme d'organisation pour avoir le temps de tout faire finalement. Je me pose pas tellement la question de... Enfin, voilà, j'ai un certain nombre de choses à faire dans la journée et il faut que je m'organise pour que tout soit fait et que j'ai pas trop de choses à reporter. Mais c'est vrai que c'est ce qui fait que ça peut vampiriser parce que, évidemment... quand vous avez une vie professionnelle telle que celle-là, vous n'avez pas d'horaire non plus. Ouais, donc ça m'arrive de travailler jusqu'à 1h du mat, 2h du mat. Ça m'arrive de travailler évidemment le week-end plus que l'inverse d'ailleurs. Mais bon, voilà, c'est la contrepartie d'une liberté qui est de se dire on fait ce qu'on aime faire, on fait ce qu'on a envie de faire et on essaye de le faire avec des gens... avec lesquels on a envie de travailler, on a envie de collaborer.
Alors justement, vous parlez de faire ce qu'on aime faire en tant qu'entrepreneur, c'est un truc qui me parle bien, ça. Et du coup, en fait, ce que je trouve difficile, c'est aussi de savoir ce qu'on aime. Parfois, c'est assez compliqué. Et en fait, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un d'assez passionné. Vous avez écrit un livre, enfin publié un livre, vous avez donc fait ce film. Vous faites des choses qui vous portent, qui vous parlent. J'imagine que ça vient des tripes, mais faut aussi savoir faire des choix. Vous avez dit ça au tout début de notre interview. Est-ce que vous avez parfois justement la sensation que c'est pas facile de faire des choix ? Comment est-ce que vous abordez ces thèmes ? Parce qu'on peut pas tout faire, comme vous dites, et donc il faut savoir sacrifier certaines choses, parfois certaines parties de sa carrière professionnelle, parfois au contraire sa vie personnelle. Comment est-ce que vous abordez ça ? Est-ce que vous avez des techniques ? Parce que j'imagine que ça pourrait aider beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast pour justement réussir à faire un maximum de choses qui vous plaisent, organiser en fait ce qui vous plaît.
J'ai beaucoup d'envie, j'ai beaucoup de coups de cœur, j'ai beaucoup de... Récemment encore, là je me pose la question de savoir si je vais le faire ou pas, mais j'ai envie de faire un documentaire sur l'histoire d'un gamin de 16 ans qui a une histoire incroyable, qui n'a pas eu d'écho médiatique. J'ai envie de le faire. Mais il faut prioriser. Et si vous faites tout, vous risquez de faire mal. Donc il faut à un moment effectivement... moi je suis passionné comme vous l'avez dit. Et j'ai parlé à la mère de ce gamin, je lui ai dit, on va faire ça, on va tourner pendant 1 an et demi, 2 ans, on va faire... Et là, je suis en train de me rendre compte que concrètement, au moment de passer à l'action, c'est moins simple
c'est sûr.
Que ce qu'il y paraît et que maintenant, je cherche la façon de m'organiser pour réussir à faire ce doc parce que j'ai quand même très envie de le faire. Il faut que je sache si ce jeune homme aussi a cette envie, parce qu'on ne peut pas faire les choses sans...
Il faut quand même accepter de se faire suivre pendant un an et demi.
Exactement. Il en a l'envie, mais je ne suis pas sûr qu'il en ait la motivation, et pour moi, c'est compliqué de m'organiser, donc on est en train de voir ça, en fait. Mais tout ça pour dire que, je le disais tout à l'heure, il y a ce qui est nécessaire, on vit en société, on vit dans un groupe humain, et si on ne veut pas être en marge de ce groupe humain, il y a un certain nombre de choses qui nous sont imposées par la loi, par les usages. Par exemple, il faut s'habiller le matin, vous ne sortez pas tout nu. voilà. Donc, il y a des choses qui sont de l'ordre de la nécessité et il y a ce qui est de l'ordre de la possibilité. Il y a le devoir et il y a le pouvoir. Et je trouve que trop souvent, les gens hypertrophient un peu dans leur tête ce qui est de l'ordre du devoir. Donc, il y a plein de choses qu'on doit faire absolument. Et ce qui est de l'ordre du pouvoir, ils le rétrécissent et ils disent, on peut pas faire ci. Non, je pense qu'il faut... en tout cas, moi, je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. Après, il faut choisir dans ce qu'on peut faire parce qu'on peut pas tout faire. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire. Et à partir du moment où on décide de faire l'une de ces choses qui n'est pas de l'ordre du devoir, mais qui est de l'ordre de ce qu'on sent pouvoir faire et qu'on a envie de faire, qu'on a envie de partager, eh ben, il faut le faire à fond, il faut se donner toutes les chances pour le faire. Et en général, quand on a cet état d'esprit-là, on arrive au bout.
Ouais.
Parce que, pour revenir un tout petit peu à cette histoire de film, il est complètement improbable, ce film. Il aurait jamais dû exister. Mais il n'aurait jamais dû exister. On s'est fait balayer, comme plein d'autres projets, mais par les institutions qui encadrent et qui financent la vie cinématographique française. On n'a pas eu de soutien de chaîne, alors que pourtant je serais dans une chaîne, on n'a pas eu de soutien de chaîne. On n'a pas eu... Enfin, toutes les institutions, tout le système qui aujourd'hui organise et finance le cinéma nous a fermé la porte au nez. Donc ce film, il n'aurait jamais dû exister en fait. Sauf que si on y a cru, qu'on y a mis nos tripes, qu'on y a mis les moyens qu'il fallait pour qu'il existe, et qu'on l'a fait, malgré tout. Donc c'est plus une question, c'est vraiment une question de se dire, on décide de faire quelque chose, bah il faut y mettre
toute l'énergie possible, imaginable. Voilà. Quoi. Et en deux mots, est-ce que vous pouvez justement, parce que je ne vous ai même pas posé la question, mais pour les personnes qui nous écoutent, décrire un petit peu quand même le synopsis de Fracture, juste pour que voilà, on sache un petit peu, moi je l'ai lu, mais que vous nous disiez avec vos mots justement de quoi ça parle.
Bah pour boucler avec ce que je disais par rapport aux immersions que j'ai faites, Fracture, c'est la volonté de rassembler sur un espace restreint, en l'occurrence un bateau, pendant une fête, des archétypes de notre société d'aujourd'hui et de voir comment ces gens vont se comporter les uns en face des autres et surtout de démontrer que des liens sont possibles entre des gens qui se pensent très différents les uns des autres et qui pensent ne rien avoir à faire les uns avec les autres. Et j'ai donc plusieurs personnages, dont mes deux principaux qui sont d'un côté une prostituée et de l'autre un jeune homme qui s'est fait embaucher comme serveur sur cette fête, mais qui est en fait un projet terroriste qui a été converti à une vision radicale et absolument pas religieuse de l'islam et qui a un projet d'attentat. Et ces deux personnages, aussi différents l'un de l'autre, ils se retrouvent de façon circonstancielle enfermés dans une pièce où ils sont obligés d'opposer leur vision du monde
et de se parler,
leur vision de la société, de se parler. Et de ce fait, en se parlant, ils vont se découvrir qu'ils sont finalement pas si éloignés que ça l'un de l'autre et qu'ils ont plus de points communs qu'ils le pensent au départ.
Ça donne envie. Et honnêtement, là, une fois de plus, je vous le disais, la bande-annonce est assez... franchement, elle est très prenante. Donc, je pense que je serai dans les salles le 9 novembre.
Alors, il sortira sur Internet. Il sortira sur notre plateforme digitale qui s'appelle fracturelefilm.com.
D'accord.
Et ça aussi, c'est une démarche intéressante parce qu'elle est nouvelle. C'est-à-dire que plutôt que de sortir en salle de la mauvaise façon, j'ai préféré me dire le film il existe, on l'a fabriqué, on est tenu par personne puisqu'on l'a fait nous-mêmes, on l'a financé nous-mêmes. Sortons-le de façon originale, allons jusqu'au bout. Et donc on a monté une plateforme sur laquelle ce film sera visible. Alors il y aura des contenus gratuits, mais le film sera en payant.
D'accord.
La BO aussi pour ceux qui auront aimé l'ambiance musicale du film.
Ouais.
Et on va jusqu'au bout, on fait un truc de totalement nouveau, c'est-à-dire qu'on crée une plateforme dédiée à un film.
Donc c'est assez entrepreneurial. Je mettrai les liens dans le podcast, évidemment, pour que vous puissiez les écouter, messieurs, dames.
Merci.
Si on revient, et ensuite je poserai quelques rapides petites questions pour terminer, sur cette idée de choix, une question qui m'intéressait, parce que vous en avez parlé avec beaucoup, je trouve, de véhémence et d'émotion, c'est justement, est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez dû faire des choix? Que ce soit des choix professionnels, des choix personnels dont vous pourriez me parler, parce que vous ne pouviez pas tout faire et qu'il y a un moment où vous avez dû décider en fait que ça j'aimerais vraiment le faire mais ça va pas être possible et je sais que finalement dans ma vie c'est quelque chose d'accessoire et que c'est pas forcément le truc le plus prioritaire parce qu'une fois de plus quand on est entrepreneur en fait ça n'est que ça la vie c'est de faire des choix c'est en fait on a des ressources limitées on a du temps limité et du coup je me dis que vous si finalement avec tous ces projets c'est un petit peu la même chose donc est-ce que ça vous est arrivé?
Ouais ça m'est arrivé. Faire des choix et les assumer surtout. Et le choix le plus spectaculaire que j'ai eu à faire dans ce sens, c'est le choix d'arrêter le JT. J'étais joker donc du journal télévisé de TF1.
Donc
je remplaçais pendant leur absence d'abord Patrick Poivre d'Arvor, puis Laurence Ferrari. Et en 2013, c'est ça ? 2013, j'ai décidé d'arrêter de cet exercice que j'aimais faire. C'était pas une question de pas aimer ça. C'est juste que je faisais beaucoup de choses et que le fait de beaucoup travailler en saison et pendant les vacances, de devoir remplacer ceux qui étaient en vacances, ça me posait un problème dans ma vie personnelle, par rapport à ma famille.
Bien sûr.
Et ça me posait aussi un problème d'équilibre dans la vie, parce que dans la vie, il n'y a pas que le travail. Je suis allé voir ma directrice de l'info, qui a très bien compris à l'époque. Alors, tout le monde n'a pas compris. Certains ont vu
j'imagine
derrière
que la terre entière devait se dire que vous étiez fou, franchement.
Certains me disent, mais TF1 t'as viré du journal. Ouais. D'autres ont cru à l'époque que c'était une stratégie pour déstabiliser la personne titulaire et venir reprendre une place, ce qui m'a jamais traversé l'esprit. Ouais. C'était simplement, effectivement, la nécessité de faire des choix et de choisir ce qui était pour soi le plus important. Parce que si je m'étais fié à ce que les autres attendaient, à ce que notamment la communauté noire, parce que moi, à chaque fois je vois des gens qui incarnent la diversité, pas que les noirs, que ce soit des maghrébins, des asiatiques, ou alors même des eurasiens, mais qui sont très concernés par ces problématiques, ils viennent me dire, on est fiers de toi, bravo pour ce que t'as fait, c'est-à-dire qu'ils prennent à leur compte une partie de ce parcours qui est le mien, et je l'accepte volontiers. En revanche, ce que je n'accepte pas, c'est que ce soit cette opinion publique qui dicte mon parcours. Parce que j'avais tenu compte de ce que pensent les gens, j'aurais pas arrêté, j'aurais continué.
Bien sûr.
Mais je pense qu'il faut se dire qu'est-ce qui compte pour toi, qu'est-ce que tu as envie d'exprimer, et que ça doit avoir une grande place dans les décisions qu'on prend, parce qu'on ne fait bien que les choses qu'on a vraiment envie de faire. Et j'avais envie de faire les immersions à fond, j'avais envie de faire aussi d'autres choses, du documentaire, de prendre un peu plus de temps pour aller dans le temps long de l'information. Et donc, c'est sans regret que j'ai arrêté le JT. Et quand on me demande aujourd'hui si j'ai des regrets et si je voudrais y revenir, la réponse est non, j'en ai pas.
Tant mieux. Du coup, j'aime bien terminer l'interview parce que le temps passe, sur des petites questions rapides qui peuvent d'ailleurs, vous pouvez y répondre un peu plus longuement si vous voulez, mais voilà. Alors, j'ai vu et vous m'avez dit que vous étiez une ceinture noire au judo. Alors, je ne connais rien au judo, je vais être honnête avec vous, mais j'ai quand même regardé une partie du documentaire que vous avez fait avec Teddy Riner, qui est incroyable. Et d'ailleurs, messieurs, dames, là aussi, je vous conseille de le voir parce que franchement, bon, déjà, il est incroyable, mais le documentaire est très, très bien fait. Est-ce que le sport, ça reste important pour vous ? Là aussi, c'est une question qui m'intéresse parce qu'une fois de plus, le partage de la vie entre vie professionnelle, vie personnelle, justement, le fait de prendre du temps pour soi, c'est quelque chose que je trouve très important, justement. Est-ce que vous continuez à faire du sport, peut-être du judo ? Est-ce que c'est important pour vous, justement, de faire du sport et d'avoir une forme physique qui est bonne ? Est-ce que vous pouvez m'en parler ?
Prendre soin de soi, c'est important. Prendre soin de soi physiquement et spirituellement, c'est important. Donc, faire du sport, c'est toujours pareil. C'est la notion de temps disponible. Ouais. Mais j'essaye.
Vous en faites régulièrement quand même quelques fois par semaine.
J'ai de la chance d'avoir une bonne génétique et je prends pas énormément de poids et dès que je fais un peu de sport, on dirait que j'ai fait du sport pendant 6 mois alors que je suis un peu une arnaque.
D'accord.
J'ai cette chance-là, j'en profite.
Très bien. Au niveau alimentation, de la même façon, vous faites un peu attention, vous avez des conseils à donner aussi, parce que pareil, quand on travaille comme ça tout le temps, je me dis, il y a un moment où ça doit pas être simple quand même à gérer.
Non, je peux pas dire que je sois très assidu à des habitudes alimentaires qui seraient saines. Maintenant, j'ai 45 ans et je me rends compte que je peux pas manger et boire comme je le faisais à 25, 30 ans. Et donc, je commence à réduire certaines choses. Et je pense que plus ça ira, plus j'essaierai de me discipliner à ce niveau-là. Mais c'est pas encore très, très bon.
Ça marche. Une autre petite question, c'est au niveau du sommeil, de la même manière, donc toujours pareil dans cet état d'esprit, un petit peu un esprit sain dans un corps sain. Vous dormez beaucoup, Harry, ou vous êtes plutôt quelqu'un qui n'a pas besoin, vous avez cette chance de ne pas beaucoup dormir ?
Non, j'ai la chance de bien dormir, d'avoir une très bonne qualité de sommeil.
Ouais.
Je m'endors très vite.
Génial.
Ça m'a été dit, même de façon un peu surprenante parfois. Donc quand je me couche, je m'endors très vite. Et je ne dors pas autant que mon corps me le réclame, mais je dors. Moi, je pense que de base, je pense qu'il faudrait que je dorme 7 heures, 7 heures et demie.
Ouais.
Je dors 6 heures, 5 heures et demie, 6 heures.
D'accord. Oui, donc c'est pas énorme quand même.
C'est pas assez.
C'est pas assez, ouais. Surtout.
J'aimerais bien pouvoir dormir un peu.
C'est
plus.
Pour ça que vous faites pas de sport, parce que vous êtes trop fatigué après. Ça marche. Et justement, des trucs que vous avez pour être en forme malgré votre emploi du temps très chargé.
Le prendre tout ce qu'il y a à prendre à l'extérieur, les sourires des gens, la lumière du soleil, la douceur des températures, les belles choses qu'on peut être amené à voir, à apprécier. Apprécier la vie et les petits bonheurs, les petits plaisirs de la vie.
C'est clair. Ça, on ne le fait jamais assez. Et ma dernière question que j'aime beaucoup, je dois dire, c'est les livres qui vous ont le plus marqué ou vous avez plus peut-être offert, recommandé autour de vous. Ça peut être récemment, ça peut être il y a très longtemps, ça peut être de la littérature. Alors, votre livre, évidemment, mais aussi d'autres livres.
Je ne recommande que mes livres.
Bah, bien sûr, vous avez tout à fait raison.
Non, surtout pas. Non, j'adore. Alors, c'est le seul cadeau que j'aime faire, des livres. Et bon, parmi ceux que j'offre volontiers, vous avez parlé de Romain Gary tout à l'heure, ouais. Donc il y a évidemment La vie devant soi.
Génial.
Romain Gary. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Hubert Shelby, qui est un auteur américain qui a écrit Last Exit to Brooklyn notamment.
D'accord.
Dont a été tiré et Retour à Brooklyn qui a donné le film Requiem for a Dream.
Ah. Génial.
Il a écrit aussi un livre qui s'appelle Le Démon, un livre qui s'appelle Le Soul, et il a une écriture très très forte que j'apprécie particulièrement. James Baldwin aussi, j'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup aussi Dany Laferrière, qui est un auteur haïtien, qui est aujourd'hui membre de l'Académie française. Des Fleurs pour Algernon, c'est Daniel Kay qui a écrit ça. J'aime bien la science-fiction. Alors là, c'est un petit peu... C'est du fantastique,
ouais.
Mais j'aime bien aussi la science-fiction, les Asimov,
ouais,
Bradbury, etc.
C'est génial. Moi, je mettrai tout ça dans les références du podcast. Génial. Et du coup, est-ce qu'il y a un dernier sujet dont on n'a pas parlé que vous souhaiteriez aborder, une dernière petite requête? Donc, Fracture, on en a parlé, bien évidemment, avec la sortie le 9 novembre. D'autres choses? Vous n'êtes pas obligé.
Non. Simplement, alors, on parle à des entrepreneurs?
On parle à beaucoup de monde, beaucoup de monde, je dis ça à vous, pas tant de monde que ça, mais on parle à pas mal de monde, pas mal d'entrepreneurs, on parle à des personnes, qui s'intéressent à l'idée de lancer des projets, que ce soit dans la vie personnelle, professionnelle, qui ont envie d'apprendre, en fait, essentiellement.
La petite chose que j'ai envie de rajouter, parce que moi, elle me guide et je pense que c'est pas toujours facile de l'avoir à l'esprit, surtout quand on est dans des projets, surtout quand on a des choses lourdes à porter, c'est de continuer à considérer que l'humain est au cœur de tout et que l'humain, c'est la chose la plus importante et c'est ce qui amènera au succès. Je trouve qu'on est dans une période très intéressante dans laquelle on commence justement à désinvestir le matériel et le succès en tant que tel pour recommencer à l'associer à l'humain. Et ça, c'est un virage qu'on est en train de prendre que je trouve hyper important, que je trouve hyper salutaire. Je pense que c'est un rééquilibrage dans toutes les périodes et dans tout ce qu'on découvre. Il y a un moment où on va à fond dedans, où on va trop loin, et ensuite on revient vers quelque chose qui est plus dans la norme et qui est plus de long terme et qui a plus d'avenir et qui fonctionne mieux. Et je crois qu'on est en train d'y revenir globalement. Et voilà, si je dois porter quelque chose, c'est porter cette valeur-là et porter l'amour au sens large, hein. L'amour au sens amitié, l'amour au sens aimer son prochain. Mais l'amour, c'est quelque chose qui était considéré comme un peu gnangnan, comme un peu décalé. Quand vous parlez d'amour dans l'entreprise, les gens, ils vous regardent à la limite, mais t'es un gourou, de quoi tu me parles? Non. C'est ce qui nous porte depuis qu'on est jusqu'à notre mort, c'est ce truc.
Complètement.
Et il faut pas en avoir honte, faut pas le mettre de côté, faut pas le dissimuler. Il faut s'en servir comme d'un moteur, comme d'un guide dans ce qu'on fait. Et franchement, ça fonctionne.
Non, mais c'est clair. Bah, pour rebondir là-dessus, beaucoup d'entrepreneurs, justement, qui marchent très, très bien, que j'ai pu interviewer, me disent que finalement, pour eux, la clé de leur réussite, c'est d'être avant tout passionné, donc d'avoir de l'amour pour leur projet, et aussi d'avoir les personnes autour d'eux, donc les collaborateurs, qui sont des personnes vraiment qui deviennent quasiment des amis, qui sont des personnes avec qui ils apprécient travailler. Et j'ai eu tout autant Augustin de Michel et Augustin, Frédéric Mazzella de Blablacar, qui à chaque fois me dit cette même chose, être passionné par ce qu'on fait et aussi être passionné par les personnes avec lesquelles on travaille. Donc ça rejoint complètement ce que vous me dites. Génial. Bah, écoutez, merci mille fois.
Merci.
Une dernière petite question, c'est si on veut vous contacter ou vous suivre peut-être sur les réseaux sociaux, par exemple peut-être Twitter, ou je ne sais pas si vous êtes actif sur ce genre de...
Je suis plus actif sur Instagram. J'ai un
D'accord.
Instagram qui est à mon nom officiel.
Donc Harry Roselmack, etc. Parfait. Voilà. Bah, écoutez, je le mettrai dans les notes. Bah, merci mille
merci
fois, Harry.
Vous.
Hello à nouveau. Et quelques dernières petites choses avant de vous quitter. Comme d'habitude, si vous cherchez les notes de l'épisode, avec toutes les références, que ce soit les outils, les livres cités, c'est simple, allez directement sur le descriptif du podcast, sur l'appli de votre choix. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, me proposer de nouveaux invités peut-être, ou juste me faire un feedback, n'hésitez pas, j'adore ça, les feedbacks. Donc foncez directement sur Twitter ou Instagram sous le pseudo Pelaigneau, @PLAIGNEAU. J'essaye de répondre quand on me parle, donc n'hésitez pas. Et comme à chaque fois, vraiment mille merci d'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas, si le podcast vous plaît, que vous appréciez tout ce travail, le plus simple pour m'aider, c'est tout simplement de mettre soit un petit mot doux, soit une note 5 étoiles sur iTunes, ou de partager sur vos réseaux sociaux aussi. Ça donne le moral, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast, donc n'hésitez pas. Voilà, merci à tous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.